Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast pour la deuxième saison. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Je travaille à l'hôpital depuis toujours, exclusivement dans le domaine de la cardiologie. Cette année, le podcast élargit sa palette de professionnels suite à vos demandes et j'espère que cela va vous plaire. Il y aura donc certains mois d'autres métiers mis en avant. De plus, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux et les plateformes d'écoute. Toutefois, les témoignages de patients sont toujours présents. Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. En ce mois d'octobre rose, j'interviewe Anne-Laure, jeune patiente de 39 ans. Elle revient sur son parcours face à la maladie qui a affecté son corps, mais en aucun cas sa détermination. Merci à elle et merci pour votre écoute.
J'ai 39 ans, je suis maman de deux enfants, de deux filles qui ont 9 et 11 ans. Je suis ingénieure en géotechnique avec un rôle de responsable d'activité au sein de mon agence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai, on va dire, un patrimoine familial héréditaire assez conséquent, à savoir que du côté de mon père, ma grand-mère et ma tante ont eu un cancer du sein, avec récidive sur l'autre sein. Et du côté de ma maman, il y a eu aussi un cancer du sein, donc ma grand-mère. Et il y a eu un cas de cancer des ovaires d'une de mes tantes. Donc moi, à partir de là, ça c'était avant que j'ai mes soucis de santé. Donc à 35 ans, donc ça va faire, voilà, ça fait 4 ans. Juste avant de partir en congé, on a senti une boule dans mon sein. Donc comme c'était le premier jour des vacances, j'ai dit « c'est pas grave, on va attendre les congés, que je revienne pour aller voir un docteur ». Pas le bon plan. Je suis allée voir un médecin, mon médecin traitant, et qui m'a orientée directement faire une échographie. Puisque étant jeune, la mammographie ne donnait rien du fait de l'importance niveau musculaire, on va dire. Du coup, j'ai eu une échographie et la radiologue en a profité. Elle a eu un gros doute. Donc, du coup, elle m'a fait directement une biopsie. Donc, ça, c'était fin août. Elle m'a donné rendez-vous 6 jours après. Et à partir de là, elle m'a annoncé les résultats. Donc, un cancer du sein triple négatif. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est-à-dire que ce n'est pas hormonodépendant, très agressif. Et dû à partir de là, le parcours de soins s'est déroulé, on va dire, sans encombre. Le diagnostic m'a été posé un 6 septembre. Et en fait, tout s'est enchaîné très très vite. C'est-à-dire, Perpignan étant quand même un petit département, du coup, en fait, l'avantage, c'est que les médecins se connaissent et les praticiens spécialistes aussi. Et du coup, en fait, ça a passé des coups de fil directement sur les portables. Et j'ai eu la chance que vraiment tout se déroule, on va dire, vraiment assez vite. C'est-à-dire que dans l'après-midi, moi, le diagnostic m'a été posé en fin de matinée. Dans l'après-midi, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a mis en ALD de suite, afin que je fasse pas l'avance des frais. Le soir, j'avais rendez-vous avec l'oncologue, qui nous a expliqué, mais c'était pas le bon jour, en fait. On rentre dans des termes techniques dès le départ, et c'était pas le bon plan. Le lendemain, j'avais passé des radios, quelque chose comme ça. Le lundi qui suivait, on m'a posé le porte-à-quatre. Le mardi, j'ai fait un TEP scan. Et le mercredi, j'avais ma première chimio. Donc, il s'est écoulé 6 jours entre la pose du diagnostic et ma première chimio. Donc, c'est allé vraiment très, très vite. Et à partir de là, c'est pour ceux qui connaissent, donc c'était thérapie néoadjuvante. Donc, une chimio toutes les 3 semaines, avec les effets secondaires qui vont avec. Au bout de 2 semaines, évidemment, un petit peu des pertes de cheveux. Donc, à partir de là, on prend les devants, on fait couper les cheveux courts. À la deuxième chimio, évidemment, je me suis rasé la tête directement. Ça sert à rien d'attendre et de se poser ce genre de questions. On avance. Je me suis rasé la tête. Je suis allée chez un perruquier qui m'a fait faire donc une perruque que j'ai eue en même pas une semaine, que je n'ai pas mis beaucoup finalement. J'ai plutôt porté des bonnets, ça tombait bien. C'était l'hiver, c'était parfait. Voilà. Et donc j'ai eu 4 chimio à espacer de, on va dire, entre 3 et 4 semaines. Évidemment, beaucoup de fatigue. Mais on apprend à gérer, beaucoup de choses est dans la tête. J'ai continué à travailler, j'ai continué à m'occuper de mes enfants, on a continué à faire du sport, on a continué à voir les copains, à faire des apéros. Donc c'est difficile, mais ça se gère. À partir du moment où on a la famille rapprochée qui est là, je dirais que tout va bien. La famille et les amis, évidemment. Et puis, donc ça me ramène fin décembre. Là, j'ai eu une pause pendant Noël. Et puis à partir de janvier, j'ai eu ce qu'on appelle du Taxol. Donc ça, le Taxol, c'est une chimio par semaine qui est moins fatigante. C'est un peu plus contraignant puisque c'est une fois par semaine. Donc c'est autant de temps. Hein. Je dirais, faut savoir qu'une chimio, c'est environ 3 heures sur place à peu près. Et après, bon voilà, la journée, soyons honnêtes, c'est pas facile, c'est assez fatigant. Donc moi, j'avais toujours calé mon planning des chimios pour faire en sorte que je loupe le moins de travail possible. Donc quand j'avais les chimios en néo-adjuvant, je faisais ma chimio le mercredi, puisque je savais que jeudi, vendredi, c'était difficile, je pouvais pas me lever. Comme ça, j'avais le week-end pour me requinquer, je retournais au travail le lundi. Par contre, quand on avait les chimios donc en Taxol, là, c'était une journée difficile, on va dire. Donc je la calais le vendredi, ça me laissait samedi, dimanche pour me reposer et reprendre le travail le lundi. Donc je faisais en fait du 80%. On est parti au ski et les chimios se sont arrêtés et puis on a commencé du coup les rayons. Donc là les rayons c'est environ une quinzaine de séances à raison d'une par jour. Donc moi je l'avais calé le midi. Donc je faisais ça entre midi et deux pendant ma pause et après je retournais travailler. Comme si de rien n'était, et puis tout s'est bien passé, voilà, ça c'était mars-avril, et après je me suis fait opérer fin mai. Donc comme on peut s'en douter, moi par contre, j'ai eu un suivi, comme c'était, il y avait un patrimoine, on va dire, dans la famille qui était assez important, où j'ai passé les tests pour savoir si c'était génétique. Évidemment, c'était génétique, puisque j'ai un gène muté qui est le BRCA1, il y a aussi le BRCA2. Donc là, j'ai été suivie en parallèle sur Montpellier pour les tests. Et ça, du coup, c'est ce qui a été le plus difficile à accepter, de savoir que c'est génétique, puisque personne ne m'avait averti. Donc c'est tout un travail sur soi à faire, avec beaucoup de culpabilité, puisque moi je suis maman de deux filles, donc forcément, c'est savoir comment réagir vis-à-vis d'elles, etc. Donc ça, c'est un travail qu'il faut mener, faut pas se voiler la face. Pour moi, c'était le principal. Les trois maîtres mots pendant cette période, c'est organisation, discussion, et puis après, c'est détermination. Donc, détermination pour avancer et faire pas se plaindre, on avance, et ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, ça fera pas avancer les choses. Puis l'organisation, évidemment, par rapport aux enfants. Et puis, conversation, évidemment, on a eu cette discussion en famille, donc moi, j'ai pas réussi à en parler, donc c'est mon mari qui en a parlé aux filles. À l'époque, elles étaient petites puisqu'elles avaient que 5 et 7 ans, donc on a essayé de mettre des mots sans utiliser des termes morts. Non, c'est une maladie, ça se guérit, je vais perdre mes cheveux, mais c'est comme ça, et puis c'est pas grave. Et mes cheveux vont repousser, ils seront différents, et voilà. Et du coup, tout s'est bien passé, elles l'ont très bien accepté, sur le moment. On a eu une période difficile, je dirais un ou deux ans après, où un petit retour de bâton avec les filles, donc on les a fait suivre par un psy, parce qu'il y avait forcément de la colère. Ça s'est réglé. Alors, moi ce qu'il faut savoir, c'est que je n'accorde aucune importance au physique. C'est une grande chance pour moi, c'est que la perte de cheveux ne m'a absolument rien fait. Je sais qu'il y a des femmes qui l'ont très mal vécu, enfin c'est que des cheveux. Donc moi je me suis rasé la tête, oui c'est pas la période la plus agréable, surtout en hiver, parce que mine de rien, je dis qu'il est chauve, et ben chapeau bas. Parce que il fait très froid quand on n'a pas de cheveux, c'est très très compliqué. Donc non, moi en étant une femme, j'avais acheté des foulards, donc je me faisais des coiffures différentes avec les foulards. C'est vrai que la perruque, je la mettais uniquement quand j'avais des réunions à l'extérieur. Voilà, c'est pareil, en étant une femme, on peut quand même continuer à se maquiller. On triche, on met un peu plus d'eyeliner. Voilà, on peut mettre un peu de peinture entre guillemets pour les sourcils. Ça m'est resté puisque je me maquillais jamais. Donc là, pour le coup, j'ai appris quelque chose. C'est pas mal. Voilà. Et puis après, tout ce qui est bonnet, béret, là, je me suis découvert une grande passion. pour les chapeaux. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est purement, on va dire, pour les cheveux. Après, physiquement, le fait que ça soit génétique, moi, j'ai fait une double mastectomie. Donc d'abord sur le sein malade. Donc moi, ça a été une mastectomie avec reconstruction immédiate. On va rentrer un petit peu dans des termes techniques, à savoir que, comme j'ai pas de bol, je me suis dit, ça sert à rien de faire, de mettre une prothèse. Donc j'ai pris le parti de faire une reconstruction avec un lambeau du grand dorsal, c'est-à-dire qu'on a tout enlevé. C'est une opération assez lourde, hein, qui dure 5-6 heures. Et en fait, ils prennent au niveau du grand dorsal, donc un muscle du dos, ils viennent le rattacher sur le devant. Donc on n'a plus de mamelon, on n'a plus tout ça au départ, mais ça se fait en trois étapes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par faire la reconstruction sur le sein malade. Donc ça, c'était au mois de mai. Au mois d'octobre, j'ai fait une mastectomie, donc ce qu'on appelle prophylactique, à savoir une mastectomie pour éviter justement d'avoir un cancer sur le sein qui n'était pas malade. Donc, sachant que c'était génétique, moi j'avais tout intérêt à le faire. Je l'ai fait sans difficulté, ça m'a pas posé de problème. Et puis après la troisième opération, donc ça c'était au mois de décembre, donc il s'est écoulé 6-7 semaines après la deuxième opération, où là, le chirurgien, quelqu'un de vraiment exceptionnel, le docteur Bertrand, s'il m'entend, je le remercie. Il a vraiment fait un travail incroyable. Il a été d'une patience exemplaire et il sait parler à la famille, aux patientes. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et donc, il a fait une reconstruction du mamelon. Donc on voit quasiment rien à partir de la peau de l'aine, puisque c'est une peau qui est un peu plus foncée. Donc du coup, il a pu le reconstruire. Devant, on ne voit quasi pas. Bon, de toute façon, je ne montre pas ma poitrine à n'importe qui. Donc c'est pas grave, c'est perso. Par contre, évidemment, j'ai deux grandes cicatrices dans le dos. Mais ça, je dirais, comme elles sont très fines, il les a faites quasiment au niveau du soutien-gorge. Donc ça ne se voit pas. Et puis après, ben voilà, j'ai fini, on va dire, tout ce qui était rude d'un point de vue physique, donc aucun problème. Juste, ça, faut le savoir, c'est qu'au niveau sensibilité, c'est pas forcément évident. Moi, j'ai encore mal si mes filles m'approchent un peu trop vite. J'ai encore ces douleurs. Ça, je le sais que ça restera, donc on fait avec. Je dirais, ça reste une séquelle qui est pour moi minime. Et puis ça permet aussi de se dire, bah voilà, je suis passée par là et on le sait, c'est comme ça. Il est comme moi. On n'accorde pas beaucoup d'importance au physique, donc ça n'a pas changé grand-chose par rapport à mon corps. Après on va dire les opérations, la période chimio, on a essayé de continuer à avoir une vie intime. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des chimios, dans mon cas, en tout cas, c'est pas pour toutes les femmes, mais ça arrive assez fréquemment. J'ai eu une ménopause, donc qui est réversible. Mais la chimio enlève les règles. J'avais perdu beaucoup de poids, donc de toute façon, ça a été chaotique. Donc il y a des sécheresses vaginales, ce genre de choses. On a pris ce qu'il fallait et puis forcément, hein, la fatigue qui a beaucoup joué. Faut pas se leurrer, c'est pas une période évidente. On a autre chose en tête aussi, mais faut continuer à avoir le lien avec son mari. C'est la maladie, c'est qui tout double. Hein. De toute façon, faut le savoir. C'est soit on reste, soit on part. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un mari qui a été là, qui a été présent. C'est lui qui a pleuré, c'est pas moi. du coup, voilà, c'est plus difficile pour l'entourage finalement que pour la malade. Dans mon cas, en tout cas, je l'ai senti comme ça. Mais après coup, forcément, il y a quand même beaucoup de culpabilité. Se dire qu'on a fait subir ça à l'entourage, faut l'accepter. Il y a un travail sur soi à faire, c'est pareil. Moi, je suis allée voir une psy pour recadrer un peu les choses. Voilà, il m'a fallu deux séances, puis c'était réglé. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir demander de l'aide. Alors ça, c'est pas évident, hein, moi qui suis quelqu'un d'hyper autonome et hyper indépendante. Comment dire, ça m'a arraché la gueule, je pense que c'est le terme. Mais quand on a des amis, la famille qui sont à côté, faut pas hésiter à demander. Voilà, quand on est fatigué, qu'on peut pas chercher les enfants à l'école, c'est compliqué, mais il faut l'accepter. Et puis on fait avec. Ça arrive pas tout le temps. Ça arrive une fois, deux fois. Rien que le fait de parler, pour moi, c'était hyper important. Faut savoir qu'il y a des personnes qui vont pas savoir comment réagir. Donc elles vont pas donner de nouvelles. Ça, c'est dur, il y en a qui veulent pas en parler, donc faut se mettre à leur place. Les malades, pareil, il y en a qui veulent faire un peu la politique de l'autruche. Moi, c'était l'inverse. Je préférais en parler, dire les choses clairement telles qu'elles étaient. Autour de moi, à l'école, tout le monde était au courant. Les parents d'élèves le savaient, j'ai rien caché. Donc du coup, même le corps enseignant, j'ai dit, surtout, s'il y a un problème avec l'une ou avec l'autre, faut me le dire, pour qu'on puisse, nous, anticiper, avoir la discussion à la maison, pour qu'elles comprennent que non, maman, elle a un cancer, mais ça se guérit. C'est surtout à mon âge, ça se guérit très très bien. Et c'est très important d'en parler. On croit que ça arrive qu'aux autres, mais au final, c'est hyper fréquent. J'ai une amie qui en a eu un aussi. Pas le même type de cancer que moi, mais il faut le savoir, c'est très fréquent. Ce n'est pas que du côté de la maman. Dans mon cas, c'était génétique du côté du papa. Donc ce genre de discussion, il faut l'avoir avec le médecin. Si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment le message principal, on peut le répéter. Je pense qu'il y a plein de patientes qui doivent dire la même chose que moi. J'aurais pu, avec une association, pas forcément ressenti de besoin. Moi, je suis quelqu'un de scientifique, donc j'avais plus besoin d'avoir des termes techniques et de discuter avec plutôt le corps soignant. Donc, j'ai plus discuté avec des infirmières, avec des médecins, les oncologues, radiothérapeutes, savoir exactement comment ça se passait, quels produits injectés, etc. Vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est avec des patients, quand j'avais mes chimios, forcément, j'étais la plus jeune. Il y avait moyenne d'âge, c'est plus 50, entre 50 et 70 ans. Donc forcément, je me sentais pas forcément à ma place avec les patientes. Et puis quand j'allais faire mes chimios, de toute façon, j'emmenais du travail. Donc j'étais occupée. Donc c'est vrai que j'ai pas ressenti ce besoin-là. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Je l'ai vécu à ma façon et ça m'allait très bien comme ça. Concernant la rémission, donc j'étais en rémission totale suite à la première opération, puisque donc ils ont fait un curage sur 8 premiers ganglions. Il n'y avait plus aucune trace, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin des 4 premières chimios, déjà, on ne voyait plus à l'IRM de traces de tumeur. Donc avec le traitement, la radiothérapie, l'opération, donc ils ont fait les prélèvements, le curage pour vérifier. Il n'y avait plus aucune cellule cancéreuse détectable. Donc le médecin, je lui ai tiré l'hiver du nez, j'ai dit « je suis en rémission ou pas ?» Il m'a dit « oui ». Donc je suis en rémission totale. Après, concernant le protocole de suivi au niveau de la poitrine, il y a un IRM une fois par an ou tous les 2 ans. Par contre, maintenant, comme c'est génétique, moi j'ai une échographie des ovaires à faire 2 fois par an. Donc là, je fais ça. Donc je vois mon chirurgien une fois par an en décembre. Et en juin, c'est soit je vois mon oncologue, soit je vois mon gynécologue. Voilà, donc c'est-à-dire mon oncologue une fois tous les 2 ans et gynécologue une fois tous les 2 ans. Voilà, donc ça fait un suivi biannuel. Donc je traîne un peu des pieds, je suis pas une bonne patiente comme je dis. Donc c'est vrai que j'ai tendance à prendre mes rendez-vous en retard. Donc c'est pas très bien. Ne faites pas ça. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de frayeur particulière là-dessus. Après, ce que ça change on va dire pour la vision de la vie, pas grand-chose. J'ai tendance à faire un peu la politique de l'autruche, c'est-à-dire je reprends ma vie comme elle était. Mis à part le fait qu'on s'est mariés, puisque ça a été, pour le coup, ça a été un peu, une frayeur, puisque vis-à-vis des enfants, le fait d'être paxé et d'être marié, ça n'a pas la même valeur juridique. Donc du coup, on a pris la décision de se marier. Mais ça change rien, on va dire, pour moi. Jusqu'à l'an prochain, puisque l'an prochain, de toute façon, il va falloir, pour mes 40 ans, que je fasse enlever les ovaires pour éviter le risque de cancer des ovaires, où là, c'est beaucoup plus problématique, puisque les chances de survie sont moindres. Je ne prendrai pas le risque. Donc on anticipe, comme toujours. Et puis on fera enlever ça l'an prochain, donc là je serai ménopausée à 40 ans. Donc oui, je suppose que ça va avoir un impact sur ma vie, mais jusqu'à présent, ça n'en a pas. J'ai envie de dire, c'est vrai qu'il faut prendre soin de soi, ça c'est une évidence. Moi, ma tumeur, enfin la boule que j'ai eue au sein, je m'en étais pas aperçue, hein, soyons honnêtes, je me lavais et je palpais pas forcément mon sein, comme ils nous disent à la télé, etc., les messages de prévention. Et c'est mon mari, par pur hasard, il a mis sa main, il a frôlé, il a senti. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon cas, c'est un cancer, le triple négatif est un cancer très agressif. La tumeur grossissait d'un centimètre par semaine. Donc ça allait très très vite. Pourtant, je suis menue, donc j'aurais dû le voir, et je ne l'ai pas vu. On a beau le répéter, oui, faites attention, quand vous vous lavez, juste un petit coup. On ne le ressent pas forcément, mais si vous avez des doutes dans la famille, surtout, faites un suivi, même s'il n'y a pas forcément de cas. Faut savoir recouper les informations, pour moi c'est très important. Et puis si vous vous retrouvez dans la situation où vous avez un cancer, c'est pas grave, la vie continue, tout va bien, les chances de survie elles sont excellentes, plus on est jeune et plus les chances de survie sont importantes, et plus on avance en âge et moins le cancer est agressif. À partir du moment où on a un suivi, je dirais annuel ou bien, on va dire tous les 2 ans, il n'y a pas de souci à se faire. Mais ça, faut le savoir, aller voir son gynécologue et pas faire, surtout ne pas attendre.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée!